Non. Un pasuk il dit Vaimlu yameha laledet. Littéralement, ça veut dire les jours où elle va pouvoir accoucher sont arrivés. On a le jour qu'il faut pour pouvoir accoucher. Ça veut dire que les enfants étaient, ils sont nés à terme. Personne n'est né là prématurément. Et voici, il y a des jumeaux dans son ventre. Alors ici, c'est très étonnant, d'accord, puisque le pasouk dit, Vehine tomim bevitna. Et voici, elle a des jumeaux. On avait vu qu'elle était allée consulter Ever et qu'on lui avait dit qu'elle aurait des jumeaux. Donc c'est pas nouveau, Vehine, ça veut dire c'est nouveau. Il faut dire c'est nouveau pour tout le monde, parce qu'elle ne l'a dit à personne. Elle n'a pas dit qu'elle avait des jumeaux. D'après ce qu'on a vu plus haut, le fait qu'elle ait des jumeaux, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire dans la mesure où ce sont des jumeaux qu'elle a voulu. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, elle n'était pas partie pour avoir des jumeaux. Vous vous souvenez, elle était partie pour avoir les 12 enfants. Seulement, elle n'a pas voulu. Elle a refusé cette situation-là. Donc, elle a dit, moi, je veux pas que les 12 enfants soient 50-50. Je veux mettre tout le positif d'un côté et tout le négatif de l'autre. Et c'est ça qui fait qu'elle a des jumeaux. C'est-à-dire, au lieu que ce soit un enfant qu'elle avait au départ, c'est un enfant qui avait l'air de vouloir sortir aussi bien quand elle passait devant un temple idolâtre que quand elle passait devant un Beta Midrash. Elle a dit, c'est ça le 50-50. Elle a dit, ah, si c'est pour ça, je préfère ne pas être enceinte. Pourquoi est-ce que je suis enceinte? Je veux pas de ça, quelque part. Et donc, on a un peu l'impression qu'elle a choisi. Elle a dit, bon, mais sans des enfants comme ça, j'en veux pas. Et donc, elle a dû perdre cet enfant. Et puis, elle en a deux autres. Donc là, c'est vraiment véhiné, au sens où c'est une vraie révolution, parce que personne, au départ, quand elle a, après ça, quand elle a consulté les femmes, elle a demandé, vous avez aussi eu des douleurs comme je les ai, etc. A priori, elle avait pas, elle savait pas qu'elle avait des jumeaux, parce que, mais peut-être qu'elle n'en avait pas à ce moment-là. D'accord? Les jumeaux, ils sont la conséquence de son refus d'avoir des enfants qui sont des 12 qui seraient à 50-50. Ça arrive souvent que les parents veulent éviter à leurs enfants des erreurs, des souffrances, etc., qu'évidemment tout le monde sait qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas faire économiser aux enfants tous les problèmes qu'il faut qu'ils résolvent eux-mêmes. Et donc voilà, elle a des jumeaux. Seulement, il y a un petit problème, c'est que dans le texte, le mot jumeau, qui normalement s'écrit avec Aleph Vav, il est écrit seulement avec Aleph. Il manque un Vav. Il manque le Vav dans le mot Théonie. Et donc le Midrash dit, il y a un autre endroit dans la Torah où on parle de jumeaux. C'est la fameuse histoire de Yehuda et Tamar. La Tamar qui est enceinte de Yehuda, elle a des jumeaux. Et là-bas, le mot jumeau, il est écrit avec un verbe. Il est écrit plein, comme on dit. Et ici, il est écrit chasser. Chazal disent pourquoi? Parce que les deux jumeaux de Tamar, Peretz et Zerah, sont deux tzadikim. Alors que ici, les deux jumeaux de Rivka ne sont pas deux tzadikim. Yaakov et Essa. Donc ça se traduit par un manque de la gémellité, quoi, quelque part. La gémellité n'est pas aussi profonde qu'elle l'est dans Père et ses Zérach, où là-bas ils sont tous les deux aussi tzadikim, alors qu'ici ils ne le sont pas. Donc c'est ça le Véhiné, la nouveauté ici, c'est que personne ne savait qu'elle était enceinte de jumeaux. Et qu'elle, vraisemblablement, elle l'a dit à personne. On a l'impression de fait que, enfin, parce qu'on connaît la suite des événements, qu'elle l'a même pas dit à Yitzhak. Vayetse Arishon Admoni. Le premier, il est sorti, Admoni, il est sorti rouge. Admoni, c'est construit sur Adam, donc qui veut dire rouge. Amar Rav Chagai, Bishem Rav Yitzchak, Bizchut Ulkartem Lachem, Vayom Arishon, Ani Nigle Lachem Rishon. Le Midrash, il s'adresse, il ne s'arrête pas pour l'instant sur la rousseur, sur la rougeur. Il s'adresse sur le Harishon. Vayetse Harishon. Le pasouk aurait dû dire, Vayetse Rishon, il est sorti le premier, mais Harishon, ça veut dire, ça fait référence à un Rishon bien particulier. Or, cette situation où on parle de un Rishon, de Harishon, c'est une situation qu'on retrouve quand on parle du premier jour de Sukkot. Alors là-bas, c'est marqué aussi, sur le Yom HaRishon. Mais Yom HaRishon, le premier jour, mais à la limite avec une majuscule, où vous voulez, dans le L ou dans le P, peu importe. D'accord? C'est un premier tout à fait particulier. HaRishon, c'est toujours comme qu'on écrit, ou Bayom HaShishi, dans le récit de Bereshit. Les autres, on les a appelés Rishon, enfin Sheni, Shlishi, etc. Et pourquoi tout à coup le sixième, on l'appelle Hashishi, le sixième. En Chazal dit, on parle d'un autre sixième. Il y a un autre sixième ici. Et ici, parce que c'est marqué Harishon, le Midrash dit, je vais aller regarder l'autre occurrence de Harishon. Qu'est-ce qu'on a fait du Harishon de Sukkot? Pourquoi Harishon? C'est le premier jour, Rishon, pas Harishon. Ça fait donc référence au fait que il est premier, pas parce qu'il est le premier des jours de Sukkot. Il est le premier parce qu'il est un premier à une échelle différente de ce fameux premier jour de Sukkot. Qu'est-ce qu'il est? Pourquoi il est premier? De quelle manière est-ce qu'il est premier? Comment il faut l'entendre comme premier? Alors ici, le Midrash dit, Ulkartem lachem bayom harishon, parce que on dit bisrout, par le mérite de ce que vous allez prendre le fameux premier jour de Sukkot. Vous allez prendre l'herba minim. Et grâce à ce que vous allez prendre ce jour-là, Ani Niglé Lachem Rishon, je me dévoilerai à vous en premier. Comme c'est marqué dans le pasouk, Ani Rishon Vani Acharon. Je suis premier et je suis aussi dernier. Ici, dans les commentaires, on dit On aurait pu dire, Vayetse Ha'echad, le premier, l'un et l'autre, Ha'echad, Ha'echad. Le Harishon de Sukkot, on nous dit qu'il est le premier. En quoi est-ce qu'il est un premier particulier? Il est parce qu'il est Rishon le Cheshbon Avonot. Vous savez, Sukkot, ça se passe, historiquement, ça se passe juste. Et à Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu a pardonné au clan d'Israël. Par conséquent, dans le compte des Averot, le compte des fautes qui commence après qu'on ait mis les compteurs à zéro, ça devrait être le 11 Tichri, ça devrait commencer le compte des Averot pour le nouveau cycle. Et on dit il va commencer seulement le 15. Alors qu'est-ce qui se passe entre le 11 et le 15? Alors on dit que le compte des Averot ne commence que le 15. Alors qu'est-ce qu'il y a avec les Averot qu'on fait entre le 11 et le 14? Il y a dans le calendrier des Goïms, il y avait des temps qui n'étaient pas comptés, des jours qui comptaient pour beurre. Ces jours-là, c'était le carnaval. Dans le carnaval, on pouvait se déguiser, on pouvait tuer, on pouvait violer, on pouvait faire toutes sortes de transgressions qui n'étaient pas comptées. Il y avait des jours qui n'étaient pas comptés, surtout si, par exemple, on décidait que des mois avaient systématiquement 30 jours. Non, il y avait ça donne pas 365. Donc, il y a des jours de rab. Mais à part ça, il y avait d'autres jours. Des fêtes qu'on a vues dans Masechet Avodah Zara, etc., qui avaient des statuts particuliers. Mais ici, ce n'est pas qu'on ne compte pas, qu'il y a des vérotes et qu'on ne les compte pas. C'est que Chazal disent qu'on est très occupé pendant ces jours-là. On est occupé à aller acheter des arba minim, choisir ces arba minim. C'est un full-time job et on n'a pas le temps de faire des avérotes. C'est tout. Donc, le compte des Averot ne commence que le 15. Pas à faire des Averot, on n'avait pas le temps. Donc, c'est ça le Ha-Rishon. Le vrai Rishon, le Cheshbon Avonot. C'est ça. Et par le Sroute, que ce jour-là, vous allez amener ces Arba Minim. Vous allez amener ce bouquet. Qu'est-ce qui se passe dans ce bouquet, il se passe qu'il y a 13 qui sont que le clan d'Israël se présente dans sa totalité devant Hachem, y compris avec des gens qui n'ont rien à dire, comme la branche de saule, elle n'a pas de bonne odeur, elle n'a pas de fruits, elle a rien. Mais elle est quand même dans le bouquet, et parce qu'elle est avec d'autres plantes qui, elles, ont des qualités, etc., ça passe aussi. Donc, on récupère tout le clan Israël et on le présente devant Hachem. Donc, parce que vous faites ce travail-là, alors je me dévoilerai pour vous en premier. Alors, éventuellement, ça, c'est marqué que sur la fin des temps, dans le passouk, c'est marqué à la fin du passouk qui parle de cette fin des temps, c'est marqué Ani Rishon. Hachem dit, je suis Rishon. Donc, je me dévoilerai pour vous en premier. Même au moment où je vais me dévoiler pour l'humanité tout entière, à la fin des temps, pour vous, ce sera avant. Je me dévoilerai parce que vous vous êtes présenté complètement à moi. C'est une première chose. Ensuite, vous pourrez à la chem minarishon et je ferai payer en votre faveur de celui qui est sorti Rishon, c'est-à-dire des sables. C'est marqué Vayetse Harishon. Donc Harishon, c'est bien Esav. Et quand Hachem dit que il va être Coréa, il va faire payer en quelque sorte celui qui est sorti en premier pour ce qu'il vous aura fait. Voilà. Donc, on a une assurance, premièrement, qu'Hachem va se dévoiler à nous en premier, qu'ensuite il va faire payer Essam, ou bonne lachem Rishon, et je construirai pour vous Rishon, ze Bet Amigdash, je construirai le Bet Amigdash, yirtivé, isé kavod marom merishon, mekom migdashenu, quand c'est le Rishon, va vi lachem Rishon, zemelech HaMashiach, et je vous amènerai le premier, c'est-à-dire le Mashiach, au sujet duquel il y a un passage qui dit Rishon et Tzion inam, inam, Yerushalayim va s'arrêter, on parle du Mashiach. D'abord, une autre lecture de ce Rishon dans le passage, Vayetse HaRishon Admoni. Lama yatsa Esav trila. Pourquoi est-ce que Esav est sorti le premier? Pourquoi c'est pas Yaakov qui est sorti le premier? Kedeshi yetsé ou vetetsé siriuto imo. Pour que lui sorte et que sorte en même temps que lui, en quelque sorte, sa gambe, c'est-à-dire. Il y a des saletés qui vont être évacuées avec lui. Quelque sorte, et Rabbi Abaou, il illustre la chose en disant que le garçon de bain, quand il doit donner le bain au fils du roi, il nettoie d'abord la baignoire, en fait. Donc, la naissance d'Essav, c'est. Il y a toutes sortes de scories, en quelque sorte, il faut éliminer. Ça a été fait avec Essav. Il y a une matrone qui a posé la question à Rabbi Yossi ben Khalafta. Elle lui a dit. Quelqu'un qui a lu pourquoi est-ce que elle a posé la question, pardon, la matrone a posé la question, la Mayatsa Esav Trila, elle pose la question, pourquoi est-ce que c'est Esav qui est né le premier, sorti le premier Amar là? Alors il lui a répondu, vous connaissez la réponse, Tipa Rishona shel Yaakov Aita. La première goutte de semence, elle a donné Yaakov. אמר לה, משל, אם תניחי שתי מרגליות בשופרת אחת, לא זו שאת נותנה ראשונה יוצאה אחרונה, כך טיפה ראשונה של יעקב הייתה. C'est en fait une façon de nous dire que la première goutte de semence, elle a donné Jacob. Parce que si tu mets deux perles dans un tube, la première perle qui va sortir, c'est celle que tu as mis en dernier, évidemment. Donc si ça avait sorti d'abord, c'est qu'il a été mis en dernier, donc la première goutte était celle de Jacob. C'est une réponse qu'on donne à une matrone. Elle n'est pas censée être une réponse archi convaincante, mais bon, c'est une réponse. En tout cas, ce qui est important, c'est pour l'instant, le Midrash s'est arrêté sur la question de la Yatsa Harishon, le premier. C'est intéressant parce que les drachot, la dracha est essentiellement, c'est une dracha pour Israël. À part la dracha qui dit je ferai payer à celui qui sortit en premier, le Beth Amikdash, le Mashiach, etc., c'est toujours Rishon. Donc, ce mot Harishon qui parle des saves, on en déduit toutes sortes de choses qui sont appelées Rishon. En faveur de Yaakov. Okay. Comment c'est possible? Tu m'apportes des versets qui sont presque des versets contradictoires. On aurait pu dire, Harishon, c'est lui qui, à la limite, Essav, il recueille tous les premiers, quoi. Il devrait être Harishon, le Rishon absolu, le Rishon du Mashiach, le Rishon du dévoilement d'Hachem, le Rishon du Beth Amikdash, etc. Bon, c'est pas lié du tout avec Harishon. Celui qui est appelé Harishon, au contraire, lui, il a rien de tout ça. C'est comme si on voulait dire, en fait, Esav, il est sorti, il était le Harishon que pour ça, pour nettoyer le passage. Avec ça, il a épuisé sa Harishonout, quoi. Okay. Est-ce que c'est déjà, si vous voulez, une indication que la... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est une indication que le fait de naître le premier, ben c'est un peu une illusion, quelque part? On avait dit déjà, on va le voir un peu par la suite, quand Yaakov... Bon, je le dis déjà maintenant, peut-être. Ça viendra dans le Midrash plus bas. Yaakov, il va proposer à Esav de lui acheter le droit d'aînesse. Mais si le droit d'aînesse, c'est d'être né le premier, ça ne peut pas s'acheter. Ou bien tu es né le premier ou tu n'es pas né le premier. Ce n'est pas un objet achetable. Et pourtant, qu'est-ce que fait Yaakov? Il l'achète. Et Yaakov, systématiquement, à la limite, il transgresse, enfin, il ne tient pas compte du tout du fait d'être né le premier. Il va donner la double part à Yosef, qui n'est pas le premier. C'est vrai qu'il est le premier de Rachel, mais il n'est pas son premier enfant. Il va bénir Ephraïm avant Menaché. alors que le ménager, c'est l'aîné. Donc, on voit très bien que systématiquement, Yaakov, il balaye la notion de premier-né.
Grave.
Mais là, un instant, mais
Pardon.
il la balaye seulement par rapport à une espèce de. Voilà, tu es né le premier, mais c'est tout. Celle qui va le montrer à Essaph par la suite, quand il va lui faire l'article là pour essayer que Essaph lui vende effectivement son droit d'aînesse, il va lui dire que c'est la vérité, que avant le Chet Hagel, en vérité, la Avoda, elle était faite par les Prorotes, elle est faite par les premiers-nés. Ce qui, entre nous soit dit, est bon, c'est beaucoup plus satisfaisant. Parce que ça veut dire que toutes les familles sont intéressées à un moment ou un autre dans leur histoire. Tout le monde aura quelqu'un qui fait la avoda. Si c'est pas chez moi, c'est mon cousin, c'est mon fils, c'est mon père, etc. Tout le monde va participer. Au lieu que maintenant, on a remplacé ça par les Kohanim et Levim, c'est une secte, quoi, quelque part. Et les Kohanim vont devenir, on le voit bien par la suite, une espèce d'État dans l'État. Les filles des Kohanim, elles ne voudront pas. Nous, pour des Kiddushin, nous, une prouta, ce n'est pas suffisant, il nous faut un dinar. Et ça veut dire, ça ne marche pas. On n'est pas comme tout le monde. C'est vrai qu'ils ne sont pas comme tout le monde, ils mangent de la trouma, etc. Mais bon, quelque part, c'est désagréable, en fait. Je sais qu'il y a des textes qui disent qu'à la fin des temps, on reviendra à la solution des prorotes, c'est beaucoup plus. Mais en vérité, bon, peut-être que tout le clan d'Israël va jouer le rôle des prorotes après. Ça, c'est déjà une autre affaire. Et donc, est-ce que peut-être cette drachade qui prend le Rishon et qui montre que d'être né le Rishon, ça donne quasiment tous les droits à l'autre? Enfin, ça veut dire toute la avoda, c'est ce que Yaakov avait dit à Esav. Si tu es le premier-né, mais ça veut dire que tu vas devoir faire la avoda. Et alors il le dit, et la avoda, c'est extrêmement dangereux parce que si tu fais les choses de travers, tu es éventuellement passible de mort, des trucs comme ça. Et ça veut dire, moi, je vis suffisamment dangereusement, je n'ai pas besoin de raison encore. J'en ai rien à faire. Et d'ailleurs, il va dire, je n'ai rien à faire d'Hachem non plus. Bon, ça, on verra quand on arrivera là-bas. Mais donc, peut-être que ce Richon-là, il s'interprète déjà sous la forme de. Celui qui est né Richon, il a rien de spécial, quoi. Tout est donné à l'autre, quelque part. Oui.
Non, 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 mais en fait, c'était pas très. J'ai réfléchi après, c'est pas terrible. Excusez-moi, Rab, désolé.
Bien de réfléchir avant, en
C'est
fait.
vrai.
Alors après, le premier, l'aîné Admoni. Alors on arrive sur le rouge. Amar Rabbi Abba Bar Kahana. Kilou shofer damim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est né rouge, comme quelqu'un qui est un assassin. On n'a jamais vu que les assassins étaient particulièrement rougeaux. Des gens qui peuvent être complètement blêmes, mais ils sont des assassins quand même. Bon, mais il est clair que ce Admoni, intéressant parce que dans le Admoni, au lieu de Adomi, si c'était Adom, on aurait dû dire Adomi. On a introduit Admoni. Et dans Admoni, qu'est-ce qu'on a ajouté? Le même. Du coup, le dame est dedans. Au milieu du mot Admoni, il y a le mot dame, qui est le sang. d'elle-même. Donc, ça veut dire, on a, au lieu de dire Adomi, qui aurait été père, ouais, on a dit Admoni. Et donc, on a introduit l'Udam. Donc, ici, c'est le sang, mais le sang versé dans le cadre du meurtre. Comme s'il y avait déjà une tendance qui se marquait jusqu'à son apparence physique, qui indiquait que il allait devenir un assassin. Que le rouge, en fait, est à voir avec le fait d'être roux, en l'occurrence. En fait, c'est peut-être pas son teint qui était tellement rouge, mais il était poilu, il était roux. Comme on voit, le Midrash ramène tout de suite Shmuel avec David. Vous connaissez l'affaire, que quand Shmuel a reçu l'ordre d'aller oindre David, il n'a pas reçu un ordre, tu vas aller oindre David. Il a reçu un ordre d'aller chez Ishaï. Et c'est chez Ishaï, c'est un de ses fils qui va devenir, que tu vas devoir oindre, en fait. Alors bon, Ishaï, il avait 8 fils, il les convoque sur l'ordre de Shmuel, il convoque les 8. Et alors, Shmuel arrive et commence à dire les louanges du fils aîné, quelle prestance, on voit très bien, il va devenir roi, etc. Je me dis, tu vois rien du tout, quoi. Alors, tu vois, tu n'as rien vu. Ce n'est pas lui. Alors, certains disent qu'en fait, quand Hachem s'est un peu moqué de Shmuel, c'est parce que, au temps du roi Shaoul, c'est aussi Shmuel qui a oint le premier roi, Shaoul. Et quand il avait rencontré Shaoul pour la première fois, il lui a dit, voir si jamais tu veux me rechercher. Et Shmuel lui a donné sa carte de visite. Et la carte de visite de Shmuel, c'était Shmuel Rosé, c'est-à-dire, ça veut dire prophète. Et Hachem, il n'a pas aimé la carte de visite. Il a dit, quoi? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois rien du tout, regarde. Et donc, il passe en revue tous les fils de Ishaï. Quand il arrive au dernier, il est sûr de son coup. C'est pas lui. Il se tourne vers Ishaï, il dit, ouais, ah oui, j'ai bien un autre fils encore. Lui, on l'a envoyé dans les pâturages, mais il est allé paître. Ishaï, il avait un doute sur ce fils David. Parce que là, Ishaï fait partie des 4 personnes qui sont mortes uniquement pour faire comme tout le monde. Ça s'appelle Beitio Shel Nachash. Elles sont mortes par la piqûre, dans la morsure du serpent. Ce qui nous a rendus mortels. Donc, Ishaï, il est mort pour faire comme tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens super sadiques, quoi. Alors, en vérité, Ishaï, il avait eu un problème. À un moment donné, il en avait marre de sa bonne femme, je sais pas. Il avait convenu avec une servante qu'ils allaient se retrouver dans la grange, mais la servante, elle était de mèche avec la femme. Alors, elle est ostensiblement entrée dans la grange. Et Ishaï, il l'a vu de loin, il a compris qu'elle était dans la grange, mais elle est ressortie, et dans la grange, il y avait sa femme. Bon, alors, comment il s'est débrouillé, il n'a pas reconnu sa femme, il a eu un rapport avec sa femme. Et quand sa femme a eu un enfant, il s'est dit, mais j'ai pas un rapport avec elle, c'est un mamzer, ce gosse. Donc, il l'a traité quasiment comme un mamzer, et quand on lui dit de convoquer tes enfants, il ne le convoque pas. Et alors on le fait descendre, il n'était pas sur les alpages suisses, mais enfin on le fait descendre. Et Shmuel, quand il le voit, il dit, mais il est roux, c'est Essav. Donc on voit très bien que Le grand Shmuel, c'est super pointure. Hein. C'est dans les prophètes, c'est marqué, il est l'égal de Moshe et d'Aaron. Comme on le dit dans le texte, on le dit, Moshe, Aaron, Bechoanav, ils sont des gens superstars. Et là, ils se trompent complètement, mais on voit très bien que il est roux tout de suite, mais ça va être un assassin. Il va tuer. Et la réponse d'Hachem, c'est oui, il est capable, mais il va le faire d'après la halakha. D'accord? Il a de beaux yeux. Et les yeux dans le clan d'Israël, Enea Eda, c'est le Sanhedrin, enfin, c'est les Chachamim. Et donc, lui va consulter les Chachamim pour savoir quelle guerre il faut faire, quelle guerre il ne faut pas faire, etc. Donc, tout ça, c'est dit ici dans le Midrash pour dire que roux, le réflexe roux, même chez quelqu'un comme Shmuel, roux, c'est assassin. Faut faire d'amim, quoi. On va verser du sang. Et là-dessus, le Midrash continue et il dit, Dioclétien, Malka, quand il est devenu empereur de Rome, mais quand il était jeune, il était roi Hazirin, Be'ada, Veria. Il était un berger qui s'occupait des porcs, Veria. Et en fait, ce qui s'est passé avec cet empereur-là, il a pris des mesures antisémites, quoi. Un jour, il était dans son travail, il a approché la yeshiva de Rebbi. Et il y a des enfants qui sont sortis et qui l'ont frappé. Comme empereur, il s'est installé à un moment donné à un endroit, à Miras, une ville du nord d'Eretz Israël, pas loin de Tveria, justement. Et là, il a envoyé des directives à Tveria. Il a dit que moi, empereur, j'ordonne que les rabbins juifs doivent comparaître devant moi le matin du premier jour de la semaine. Il a dit aux messagers ne leur délivre cet ordre que tard le soir, la veille de Shabbat. De sorte qu'ils soient obligés d'être mechallel Shabbat pour être à l'heure. Et la veille de Shabbat, Rabbi Shmuel ben Nachmani, il est allé au mikvé, en fait. Il a croisé Rebbi qui sortait de la maison de Beth Amidrash, et qui avait le visage défait. Il lui a demandé, mais pourquoi cette mine défaite? Alors il lui a dit, voilà, qu'on vient de recevoir de Dioclétien. Il dit que on doit se présenter. Alors il lui a dit, viens avec moi au mikvé. HaKadosh Baruch Hu nous fera un miracle. Et lorsqu'il était là-bas dans le mikvé, eux, ils présentent ça dans le traducteur, ils disent c'est un argonaute, c'est une espèce de démon qui protège les marins. Il est arrivé devant lui. Et Rabbi voulait le corriger parce qu'il dansait, il les moquait un peu. Et Rav Shmuel Ben Nachman lui a dit non, non, laisse-le. Des fois, il apparaît, lui, quand il va y avoir des miracles. Et il lui a dit, il s'est adressé à ce démon-là, il lui a dit, ton maître est en peine, et toi, tu badines et tu danses. Alors il leur a dit, il a répondu, allez, mangez, buvez, réjouissez-vous ce Shabbat. Votre Créateur doit accomplir des prodiges. Quant à moi, le matin du premier jour, je vous conduirai où vous voulez, où vous voudrez. Et après l'étude, à la fin de Shabbat, il nous a conduits, donc artificiellement, comme ça, miraculeusement, aux portes de l'endroit où était l'empereur. On a dit à Dioclétien, les Juifs sont aux portes. Il a dit, fermez les portes. Mais le démon, il les a fait franchir la forteresse, les murs de la forteresse. On lui a dit, alors il a dit, OK, moi, Dioclétien, j'ordonne qu'on chauffe des bains pendant 3 jours, qu'on les y mêle et qu'on les y trempe. Et après, ils se présenteront devant moi, ébouillantés, quoi. On a chauffé les bains pendant 3 jours, mais le démon en question, il a mis de l'eau froide. Et donc, ils ont pu entrer dans les bains, ils ont pu se baigner. Et ils ont pu paraître devant l'empereur. Alors il leur a dit, vous méprisez l'empereur parce que vous savez que votre Dieu fait des miracles pour vous. Ils répondirent, on n'estimait pas le Dioclétien le porcher, mais nous nous soumettons à l'empereur Dioclétien. Il a dit alors, ne méprisez ni le Romain, fût-il le plus humble, ni le pauvre Galérien. Encore, il leur a fait du moussard. C'est tout, quoi. Qu'est-ce que ça a à voir avec cette affaire-là? Priori, ça n'a absolument rien à voir. On voit là-bas que n'importe quelle personne peut devenir empereur à Rome. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que Essav était roux? Ça veut probablement enseigner ici que les choses ne sont pas du tout déterminées, quoi. Le grand problème, c'est quand tu dis que Essav, il est roux et que par conséquent, ça fait tout de suite penser meurtrier, etc. Non, c'est pas vrai. Effectivement, il y a dans la trajectoire des Saves, il y a une possibilité qu'il devienne effectivement un meurtrier, mais les choses ne sont pas décidées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une notion de Mazal, disons. Et pour Hazal, il y avait un Mazal Adom, un Mazal rouge, un Mazal avec d'autres couleurs. Mais si quelqu'un a le Mazal rouge, disons, alors il ne peut pas prier ou demander à Hachem d'avoir un autre Mazal. On ne peut pas changer de mazal complètement. Mais dans le mazal dans lequel on est, il y a tout le spectre des conduites possibles à l'intérieur. Et donc, si on est dans un mazal rouge, on peut être aussi bien un meurtrier, mais on peut être aussi un boucher, un chirurgien, un Mohel, etc. Donc, il y a tout l'éventail des choses négatives, mais aussi archi-positive. Donc tout est possible. C'est ça qu'on veut montrer ici, qu'à Rome, vous voulez dire à Rome, n'importe qui peut, mais il n'y a pas qu'à Rome que c'est comme ça. C'est l'ordre du monde. Hachem donne, il y a des déterminations générales, d'accord, mais il te reste toujours toutes les possibilités de faire, dans cette détermination générale, d'avoir toutes les conduites qu'on peut imaginer. Des meilleures jusqu'aux plus mauvaises. C'est ça l'illustration. C'est pas que on dit à Rome n'importe qui. Chez nous aussi, c'est comme ça. C'est pas du tout. Ça fait partie de l'ordre du monde. Akadosh Baruch Hu ne met pas au monde des gens qui ne peuvent faire que le mal. Et donc, l'idée, c'est que quand Rivka, elle a demandé que Essav, il allait avoir toute la négativité, mais il n'y a pas que la négativité. C'est impossible de voir entièrement du négatif, il y a toujours un peu de positif. Et de l'autre côté, Jacob, il y a toujours aussi un peu de négatif. Donc, ultimement, il y a toujours quand même une possibilité de faire le contraire. Donc, Rivka, elle n'a pas pu décider que chez Jacob, il n'y aurait que du bien et chez Esav, que du mal. Mais elle a voulu mettre toutes les chances du côté de Jacob pour que ça réussisse. Et du coup, ça voulait dire que chez Esav, ben, il fallait prendre en compte que voilà, chez Esav, ça serait le contraire. C'est ça la leçon du Midrash.
La notion d'équilibre, s'il y a une négative politique, il faut les résoudre de manière équilibrée. Si
Non,
ça
mais
part sur
justement,
les négatives.
ce que Rivka ne voulait pas. Rivka ne voulait pas que chacun des 12 enfants sera à 50-50. C'est trop difficile. Elle a, comme tous les parents, elle a voulu mettre le maximum de chance du côté de la réussite du clan Israël. Et donc, elle a voulu que les 12 tribus qu'elle allait mettre au monde, en fait, soient déjà nettement du bon côté, quoi. Mais elle ne pouvait pas les mettre entièrement du bon côté, ce n'est pas possible, mais elle la faisait mettre très fortement du bon côté. Mais du coup, pour des raisons d'équilibre, l'autre côté, Essav, il va aussi avoir 12 tribus, ils sont dans la Torah. D'accord? Et il va avoir des gens, même Essav, par exemple, vous vous souvenez que Essav, il va donner l'éducation à son fils, il l'envoie étudier chez Yaakov. Essav, Eliphaz, il l'a envoyé chez Yaakov. Yaakov, c'est son oncle, mais c'est aussi son rebbe. Donc, à la limite, Eliphaz, il aurait pu bien tourner, finalement, il a quand même été élève de Yaakov. Mais il va avoir une concubine, la fameuse Timna, avec laquelle il va avoir Amalek. C'est-à-dire que lui, il n'est pas Amalek. Elle, a priori, elle n'est pas Amalek non plus. Mais ces deux-là, on ne sait pas pourquoi. Ils vont produire Amalek. C'est-à-dire la pointe avancée des sables. Amalek, il faut l'éliminer complètement. Et Sav, sa tête, elle est dans Maratamarpella. Les idées d'Amalek, elles sont toujours à détruire complètement. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est Amalek, etc. On ne peut plus éradiquer Amalek. Mais les idées d'Amalek, elles doivent être combattues. Indiquer ce que c'est.
C'est pas le ce n'est pas politique
Il faut
que
essayer de réussir, de mettre toutes les cartes de son côté avant de le mettre sur le. En tout cas, c'est ce que Rivka a voulu faire. Pardon?
est-ce que vous pensez qu'elle est moins et ça, on peut ça.
C'est ce que Rivka a dessiné.
Oui, est-ce que c'est pas.
C'est comme ça, c'est Elle pense, Rivka, c'est un énorme personnage, hein, c'est une prophétesse, et Hachem a été d'accord avec elle, finalement. Encore une fois, même Esav n'est pas, il n'est pas condamné. Simplement, il aura peut-être plus de chemin à faire. En fait, ce qui s'était passé, ce qu'on va voir par la suite, c'est que Yitzhak pensait, quand il a voulu donner les brachot à Esav, il pensait que c'est pas pour rien que les enfants sont des jumeaux. Bon, avec ces histoires de Tipa Rishona, etc., ça correspond pas à ce que nous on croit être pas génétique, mais Yitzhak voulait que ils fassent équipe ensemble, Yaakov et Esav. Que Yaakov se consacre à l'étude et que Esav, qui était un homme de terrain, que Esav s'occupe du terrain, quoi. À la limite, à la fois, il va donner de l'audience aux idées de Yaakov. Et puis, à la limite, il va s'occuper du matériel et il va faire vivre Jacob exactement comme le clan d'Israël fait vivre les Kohanim et les Lévim qui sont au service d'Hachem. Et comme dans la version Bechorot, le reste de la famille allait permettre aux Bechor de se consacrer entièrement à la Torah. C'est comme ça que ça fonctionne. Jusqu'à la fin des temps, et d'après ce qu'on comprend, à la fin des temps, ce sera la même chose. Le clan d'Israël va devenir les Kohanim, en fait, et le reste du monde va entretenir les Bnei Israël pour qu'ils étudient la Torah. Parce que ils auront compris que c'était bien pour eux aussi, que c'était que ça doit se faire à deux, quelque part. Le service d'Hachem, visiblement, il ne peut pas se faire. C'est la condition humaine, on peut pas se faire, ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas des spécialistes qui se consacrent entièrement à la Torah, et ça ne peut pas se faire non plus s'il n'y a pas des gens qui les entretiennent, parce que on vit pas seulement de l'air du temps, quoi. Il faut manger. Donc il faut que quelqu'un s'occupe de l'intendance. Alors ce que Yitzhak voulait, c'est de donner des brachot à Essav pour que Essav puisse entretenir Yaakov. Comment Essav, il n'était pas d'accord de jouer ce rôle-là. Il n'était pas. On peut comprendre, peut-être que Essav, il se disait, mais moi j'ai la même tête que mon frère, moi aussi je peux être sur le terrain et aussi étudier, quoi. Pas besoin de lui. Pas besoin de faire le job tout seul.
C'est parce
Que...
qu'au moment de la vente,
Non, non, bien sûr que ce n'est pas comme ça. Il veut pas ça. Quand on lui parle à ce moment-là, il veut pas ça, il envoie tout promener. Mais après, quand il est devant son père, il pleure pour avoir une bracha. D'accord, c'est pas que je n'en ai rien à faire. Il en a à faire seulement. Il veut pas partager avec Jacob, il veut pas qu'on lui prescrive les choses, il va faire les choses comme il les comprend. Mais il veut pas entrer dans le projet de Yitzhak. C'est pour ça que ce projet se réalise pas. Et Rivka, qui est une prophétesse, Yitzhak est prophète aussi, mais il n'est pas au courant de tout. Et Rivka, elle sait que Jacob ne veut pas, que Esav ne veut pas. Et donc elle mise complètement sur Jacob, et le Gaon de Vilna dit que si les Bnei Israël, si Jacob n'avait pas reçu ses brachot, on aurait été fichu. Si ses brachot étaient allés à Esav et que Esav ne veut pas, et perdu. Donc, à la limite, on peut dire le projet divin, il pouvait être détruit par Esav. Il aurait fait la même chose que Nimrod, que tous ces gens qui ont pratiquement détruit le projet divin, sauf que il y a eu un illuminé, Abraham, qui a dit, mais moi, je vais le faire, les paroles. Mais si Abraham dit rien, c'est fichu. Tout le monde est avec Nimrod. Nimrod, il a un projet, il convainc les gens, hein. Convaincre, des contraintes. Il avait pris complètement le pouvoir, Nimrod, sur le monde entier. Au point qu'Hachem est obligé d'intervenir. Ah, vraiment?
Est-ce que a-t-elle laissé une chance?
Oui, elle a rien fait contre lui. Elle l'a empêché d'avoir les brachot parce qu'elle a compris que c'était un désastre pour Yitzhak s'il n'avait pas les brachot. Elle a rien fait directement contre lui. Elle a protégé Yaakov. Quand elle a entendu que ça voulait le tuer, elle a envoyé Yaakov et son frère. Et qu'en fait, Yaakov s'en est tiré en étant mort économiquement, puis ensuite être abusé pendant 20 ans par Laban qui lui change, qui intervient dans son mariage de toutes les manières possibles. C'est bon. Quelque part, elle a protégé Jacob, mais bon, à quel prix? Je veux dire, il n'est pas mort, effectivement, mais pas loin de ça. On va voir. Bon, c'est un peu plus. Il était donc Kulo qui a adhéré de Séar. Il était comme une pelisse. Adhéré, c'est une pelisse. Poilu, quoi. Amar Avchanina bar Yitzhak, Kulo raoui l'adéret. Littéralement, hein? Il était en fait tout entier comme une pelisse, en fait. Alors ici, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Kulo raoui ki adéret. Adéret, c'était une police, mais c'était une police que ne portaient que les gens importants. Ce n'est pas un truc pour les pauvres. On dit que les prophètes, ils portaient des choses comme ça. On dit toujours que Yahonavi, il avait un manteau en poil de chameau, là. Donc, d'une certaine manière, on peut lire, il était, Esav était quelqu'un qui, dès la naissance, il présentait tellement bien que on le voyait, il avait Il avait naturellement la police, quoi. Si la police, c'est une marque d'importance, il a dès le départ la marque de l'importance. C'est un chef, c'est un roi dès le départ, c'est ça. Rabbanan de Ramae, Beshem Rabbi Alexandri, Erechavam, Beshem Rabbi Abba Bar Kahana, Yatsa Kulo, Mefuzar, Meforad, Kaderet. Bizroto, Kemot, Kekash, Meidra. Daoud Dirtiv, un pasouk dans Daniel, Ben Dayen Daku, Kachada parzela, chaspa nechasha, chaspa vedava, avu keur min grev kayen. Et Rav Hanina bar Yitzhak Amar, mi garam lahem leasot ke or, min idre kayet, al she pashtu yedehem ba'adirin. Alors, ils ont traduit comme ça. Esav était tout hirsute, les poils épars. Donc, il y a une lecture qui dit qu'il avait une prestance, quoi, à la limite, il avait une police. Il y a ceux qui disent qu'il avait quelque chose qui aurait pu être une police, mais chez lui, c'était un sauvage. Alors, une police, il faut la bien la traiter, quoi, il faut la peigner, ou je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, lui, il était complètement, ça ressemble à ce qu'on dit sur Paro, qu'il était paroua. C'était paroua, ça voulait dire échevelé quelque part. Lui aussi, il est poil dans tous les sens, etc. Ça, c'est une lecture, en fait. Il amène un passouk de Daniel qui dit, à ce moment-là, le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe des airs en été. La balle de, quand on bat le blé, il y a la balle qui s'échappe. C'est une espèce de c'était de la poussière de toutes ces choses-là en suspens dans le vent, quoi, quelque part. Si on allait. C'est-à-dire qu'en fait, ils furent traités comme la balle qui s'échappe des airs en été, parce qu'ils avaient levé la main sur des hommes éminents, en fait. Ça veut dire les Romains furent traités comme la balle. C'est-à-dire finalement, les Romains, ils se sont effondrés devant les Germains, etc. L'Empire romain aussi s'est effondré. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont touché des gens éminents, ils ont levé la main. Les Romains, ils n'ont pas suffisamment respecté des gens importants. C'était le royaume de la force, quoi. Et finalement, ils l'ont payé. Et alors, le verset dit, ils l'appelèrent Esav. C'est-à-dire, le nom d'Esav n'a pas été donné par ses parents. C'était évident qu'il fallait l'appeler Esav. Donc, tout le monde l'appelait Esav. Il y a une lecture de Esav qui lit, en fait, Esav, comme s'il était Esav. Et au lieu de Sav, on lit Shav. Je veux dire en vain. Chazal disent que Hachem dit c'est la partie vaine dans mon univers. Alors, Akadosh Baruch Hu a l'air de dire ici, il y a une partie vaine dans l'univers. En soi, c'est difficile à comprendre. Hachem a créé quelque chose qui soit en vain. servent à rien. Mais on ne dit même pas que c'est une part mauvaise dans l'univers. C'est une part vaine. Comme si à la limite, c'est du gaspillage. On peut comprendre, c'est du gaspillage. Parce que si on intègre le fait que la tête des sables est dans Maratha Marpella, ça veut dire que les sables auraient pu devenir, jouer un rôle fondamental dans le monde. Et finalement, il ne l'a pas joué. Comme si, voilà, il y a une part, qui a été vaine. Je vais donner une tête pareille. Et au lieu que la tête, sa tête gouverne son corps, c'est le corps qui a donné les idées à la tête et bon, ça n'a pas marché.
Et ça permet à l'école de s'élever.
Bon, alors, avec l'histoire, le balancier, bon, ici, le Midrash, il parle pas de ça. On peut penser que, mais du coup, c'est plus vain. Si vraiment c'est la balance entre une fois, il y a un Chazal qui dit que quand Césarée, donc c'est quand les Essav est en haut, alors Yerushalayim est en bas. Et si Yerushalayim est en haut, alors obligatoirement Césarée est en bas. Ils ne peuvent pas être tous les deux en haut ni tous les deux en bas. Rabbi Yitzhak dit, drôle de chose, Rabbi Yitzhak, il dit, Atun kritun lechaziratron shem. Afana kari libni bechori shem. Kuamara shem beni bechori Israël. Littéralement, ça veut dire, vous avez donné à votre chazir, à votre porc, et ça va être toujours comparé au porc, parce que il montre qu'il a les sabots fendus. Donc, il a un des simanim de la cache-route. Il rumine pas. Mais il a, et donc, il se présente toujours comme ça, comme s'il était cachère. Alors, pour ça, il est comparé au porc. Porc ou sanglier dans d'autres cas, porc des forêts. Vous avez donné un nom à votre porc, alors Hachem dit, moi aussi je vais donner un nom à mon premier-né, ainsi parle Hachem, Israël est mon fils, mon premier-né. C'est ce que Hachem dit, ça fait dire à Paro, par Moshe Rabbeinu. Alors, je ne sais pas expliquer ça. Vous avez donné. C'est qui vous? Hachem dit, alors moi aussi. Vous aussi. Goïm, donc qui était là à la naissance de Yitzhak, il y avait là-bas. À la naissance de Sav, il y avait.
La mère donnait le
Et
prénom.
toujours chez Yaakov, c'est tout le temps comme ça, sauf chez Binyamin. C'est lui qui l'a donné, qui l'a changé. Mais chez Esav, c'est pas marqué, ça, je ne sais pas comment c'est chez Esav. Qu'est-ce qui a donné les noms pour garder, c'est possible que ce soit aussi les meilleurs. Mais en l'occurrence, vous avez donné à votre porc. C'est vous, même que ce soit des hommes ou des femmes, peu importe, mais qui sont le vous en question? Et vous lui avez donné un nom. Ça veut dire, vous l'avez appelé Essav. Ce vous, c'est la vox populi qui a donné, qui l'a appelé Essav. Donc vous avez vous-même dit qu'il était la part vaine. Et celui-là, Chav, il ne sert à rien, il est vain. Ça, c'est le nom que vous lui avez donné. Alors moi, je vais aussi donner, puisque vous avez donné un nom, alors moi aussi, je vais donner un nom à mon premier-né. Comme si le vous, c'était des gens qui ont donné un nom à un enfant, qui serait leur enfant. Ils savent, c'est l'enfant de Yitzhak et de Rivka. Et ce n'est pas eux qui ont donné ce nom-là. Non, mais il était appelé, tout le monde l'a, les parents l'ont appelé comme ça aussi, mais c'est pas eux qui ont décidé, ils n'ont pas dit, voilà, Icarichmo Bé Israël, les savent.
C'est pas non plus
C'est
qui a
Hachem qui
appelé.
donne le nom. Il dit, Israël est mon fils, mon premier-né. De toute manière, quand il va lui donner son nom d'Israël, c'est bien plus tard. Israël ne s'appelle pas Israël au départ, il s'appelle Jacob. C'est comme si Hachem disait, et en plus, il l'appelait directement, vous avez donné un nom à votre porc. C'est très étrange comme explication. Qu'est-ce que de quoi on parle ici? Comme si Essav, c'était un nom qui s'imposait à tout le monde, y compris peut-être à Yaakov, à Rivka et Yitzhak. Alors que Yaakov, c'est marqué Vayikra Shmo Yaakov. Il l'a nommé. C'est-à-dire, en fait, c'est un singulier. Il y a un singulier qu'il a appelé Yaakov, et il y a une pluralité, tout le monde l'a appelé Essav. Pardon? Non, là ils l'ont nommé aussi, probablement. Visiblement, les parents, on ne voit pas du tout qu'il ne l'ait jamais appelé autrement que comme ça. Donc, les parents, ils ont été convaincus aussi. Il y a une espèce d'évidence qu'il faut l'appeler ça. Donc, on a l'impression que le Yachid qui l'a appelé Israël, mais c'est peut-être lui qui l'a appelé Jacob aussi. Ensuite, comme c'est lui qui ensuite l'a appelé Jacob, et maintenant je l'appelle Israël. Qui? Non, c'est Bechori, c'est Israël qui est mon Bechor. Là-bas, c'est justement, Hachem dit, il est mon Bechor. Là, tout de suite, ça va dans le sens de ce que Jacob a fait par la suite, quoi. Israël, c'est mon Bechor. Moi aussi, je dis qu'il est mon Bechor. Bon, l'idée, elle est que on avait expliqué déjà que le mot Bechor, il veut dire le transmetteur, le traducteur du langage du père dans le langage des enfants. Et donc Hachem dit, vous avez donné un nom. Donc celui qui va transmettre chez vous, vos transmetteurs, c'est votre porc, c'est Essav. Lui, là. Alors moi aussi, j'ai aussi quelqu'un qui Hachem dit, pour moi, Israël, il va jouer le rôle du porc. C'est dans cette mesure-là que les bénis Israël sont ceux qui doivent transmettre l'enseignement d'Hachem au monde. Comme un porc doit transmettre à la génération qui vient. Israël doit transmettre au monde l'enseignement d'Hachem.
Est-ce qu'on peut dire que lorsqu'il y a un chèque de dépendance,
Oui.
le stade prend sur eux, il manifeste et il prend sur eux le spectateur.
Avant de continuer.
Parce que d'accord, à chaque fois qu'on répondra à ça, est-ce que c'est Bayern d'accord, mais est-ce que tu veux prendre ce rôle de
Tout à fait, ils veulent prendre. Ils veulent prendre. Ils disent, moi, que ça, Jacob, il veut pas, on va le voir, il ne veut pas que la Volat Hashem soit faite par Essa. Moi, je voulais expliquer, je suis un petit peu en avance sur le plan du jour. Ailleurs, je l'ai expliqué en disant que il y a dans la Avoda un souci au sujet de la notion de, pour moi, de résonance. La résonance en physique, c'est le processus, si on veut, qui, avec du fini, fait de l'infini, quoi, en théorie. Et le problème, la raison pour laquelle Hachem ne permet pas qu'on construise le Mizbeach avec, en utilisant du fer pour tailler les pierres, parce que le fer est réminiscent de l'épée, et l'épée, c'est la violence. Et si on met de la violence dans la construction du Mizbeach, avec la violence qu'il y a quand on fait la shrita d'un animal, etc. Donc, il va y avoir résonance entre la violence, et ça, c'est très mauvais. On ne veut pas de ça. Donc, pour éviter cette résonance, il y a interdiction d'utiliser le métal. De la même manière, il ne veut pas que la avoda soit faite par quelqu'un de violent comme Essav, parce que sinon, la violence d'Essav, elle va entrer en résonance avec la violence des corbanotes qu'on amène, et on aura de nouveau cet effet absolument insupportable de la violence. Alors la Torah ne veut pas la violence de la même manière qu'elle a inventé la notion de Egla Arufa pour éviter la violence, que le sol ne produise pas de la violence, etc. Donc, tout ça, elle ne veut pas de cette violence, la Torah. Donc là aussi, c'est le même problème. Yaakov, il ne veut pas que la voilà, c'est pas Stam que Essav peut-être pas un vilain sujet, etc. Non, mais le problème de la violence, c'est insupportable. Même s'il faisait la avoda, il a en lui cette rougeur, de sorte. À la limite, on pourrait imaginer que ce soit peut-être pour ça. Bon, c'est un autre chat, mais peut-être que je pourrais lire que la raison pour laquelle Hachem ne veut pas que ce soit David qui construise le Beth Amikdash, parce que David aussi il est roux. Il y a une certaine violence. Il veut pas qu'il y ait dans le Beth Amikdash, la construction du Beth Amikdash, de la violence, même si elle est bien maîtrisée, mais il y a une violence qui n'est pas nécessaire dans la Avoda. Pour faire la guerre, alors bien sûr, David, il est tout à fait légitime pour faire les guerres qu'il faut faire. Mais comme il est quelqu'un de violent, même si cette violence, il la maîtrise, etc., peut-être qu'Hachem ne veut pas que ce soit lui qui construise le Beth Amikdash, où on va faire de la violence avec des sacrifices, et il veut pas que ça passe par la violence. Et quand on lui dit qu'il a du sang sur les mains, d'accord, alors on dit c'est le sang de Nida, etc., mais le sang sur les mains, le plus simple, c'est de dire il y a cette violence qu'il est obligé de faire, qui est la caractéristique que Shmuel a bien vu en lui. Shmuel, il ne s'est pas trompé. Hachem lui a dit, il a de beaux yeux. Ça veut dire, il y a la violence, seulement elle va être canalisée par la Lara. Mais ça a de la violence quand même. Voilà, on va s'arrêter là.
D'accord.